et en fait, je vivais un véritable enfer. Donc, ce que je tiens à dire aussi, c'est ce qui demande peut-être le plus de courage, c'est de commencer à demander de l'aide.
Oui, faut être capable de demander de l'aide. Oui.
Ben, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Au contraire, c'est une forme de courage. Donc j'ai demandé à toutes les personnes que je connaissais à l'époque. Et j'étais surprise d'avoir des anciennes clientes qui étaient présentes pour moi.
Oui.
Voilà, on m'a aidé financièrement parce que on m'a aidé, j'ai retrouvé un logement, j'ai mis du temps, j'ai mis 9 mois sans relâche à essayer de trouver un logement avec tout ce qui se passe en France pour les difficultés de logement. Je n'étais pas prioritaire à l'époque pour les logements sociaux. Mais j'ai fini par réussir à trouver un petit logement sain pour mes enfants. Et je suis partie en mettant en place la procédure de séparation par rapport à l'enfant.
D'accord.
Et j'ai été bien guidée, bien conseillée, et je m'attendais au pire. Et bien sûr, le papa a continué de mentir, le papa a continué de m'enfoncer, de demander une expertise psychiatrique parce que j'étais folle. Et ça, ce sont des mots qui reviennent souvent quand on est face à de la violence psychologique.
En tout cas, vous en êtes sortie là ou vous êtes toujours en procédure avec cet homme ?
Non, alors j'ai demandé la procédure en urgence pour pouvoir mettre mon enfant à l'école et j'ai eu la garde.
D'accord.
Donc bon. Maintenant c'est établi et voilà, il y a quelque chose de plus établi. La vie reprend son cours. J'ai mis du temps, mais j'ai ouvert mon nouveau cabinet également.
Oui.
J'ai mes anciennes clientes qui sont toujours présentes. Donc je les remercie. Je les remercie d'avoir été fidèles. Et je me reconstruis petit à petit.
Bon,
donc je continue
très bien.
À travailler sur moi. Mais pour dire que parfois ça peut prendre vraiment du temps, mais qu'on y arrive toujours.
Très bien, bien. Merci beaucoup pour votre témoignage, Hélène. C'est vrai qu'on peut rebondir, on peut repartir à zéro. Comme vous l'avez souligné, c'est très important. Il faut demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide parce qu'on est souvent surpris. Il y a dans cette démarche de demander de l'aide souvent des surprises parce que les gens souvent peuvent être gênés par votre situation, ne pas faire le premier pas. Alors que si vous faites le premier pas, comme Hélène nous l'a expliqué là, eh bien, on débloque une situation. Et puis, il y a beaucoup plus de gens, et je vous le dis souvent sur cette libre antenne, beaucoup plus de gens que vous ne pensez, qui sont bons, qui sont dans l'empathie et qui sont prêts à aider leur prochain. Donc, Hélène en est l'exemple brillant. Merci beaucoup, Hélène, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, force, alors courage à vous.
Merci, Olivier.
Bonne continuation, au revoir.
Au revoir.
Sur Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir, Magali.
Bonsoir, Olivier.
Bonsoir.
J'espère que j'ai pas un chat de la gorge, mais j'ai un petit peu de rhinopharyngite.
Ah, très bien. Bah,
donc,
écoutez,
j'espère que vous m'entendez quand même.
Je vous entends très bien,
voilà,
Magali. Très bien.
Je suis sous antibiotiques. Voilà, je suis âgée de plus de 75 ans.
Oui.
J'habite en région parisienne. Le 20 décembre dernier, je me suis présenté au bureau de poste de Paris-Saint-Lazare, cette rue de la Pépinière, je peux vous donner le nom,
oui.
Avec une personne en situation de handicap dont je suis l'aidante.
Mm-hmm.
Elle est handicapée à plus de 80%.
D'accord.
Avec beaucoup d'handicap. Oui, beaucoup d'handicap. Et dont des hanches douloureuses avec des béquilles. Et avec sa carte d'invalidité à plus de 80%.
D'accord.
Donc, elle a dû m'attendre dehors, sur le trottoir, dans le froid, car il n'y avait aucune chaise à l'intérieur de la banque postale pour s'asseoir. Alors, devant une longue file d'attente de 3 mètres, une seule personne qui chie pour les virements. Alors, sur le côté, je vous décris, sur le côté à ma gauche, il y avait 4 foyers où les dépôts et colis et courriers et qui attendaient désespérément en pianotant sur leur smartphone, oui, sur leur smartphone, qu'un client arrive. Alors, ils attendaient désespérément, il n'y avait personne. La dame au guichet était d'une extrême lenteur. Et beaucoup de personnes ont râlé et sont parties. Alors, moi, je lui ai dit, mais enfin, est-ce que ces personnes-là, parce que moi, je... Alors, dans cette file d'attente, des personnes disaient vouloir un simple renseignement de moi-même, hein, qui ne pouvait être donné que par la seule dame au guichet. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que je ne peux pas m'adresser au monsieur ? Mais non. Et eux, ils ne s'occupent pas de ça, c'est moi qui donne les renseignements, c'est moi. Donc, comme je vous disais, dans cette file d'attente, des personnes disaient vouloir un simple renseignement de moi-même qui ne pouvait être donné que par la seule dame au guichet. Je lui ai présenté la carte d'invalidité. Elle m'a dit que je devais attendre dans la file. Lorsque ce fut mon tour, je lui ai fait part de mon mécontentement. Elle m'a demandé ma carte bancaire. Alors moi, pas du tout réfléchi, parce que je n'avais pas lui donné ma carte bancaire. J'avais besoin d'un simple renseignement. Bête et disciplinée, je donne ma carte bancaire. Alors, elle a relevé toutes les informations me concernant. Deux jours après, je reçois une lettre type sans signature de courrier de la poste avec un numéro de téléphone afin de prendre rendez-vous pour m'expliquer. Alors, j'appelle à ce numéro, je tombe sur une directrice de la banque, et j'explique la situation. Et j'explique la situation à la directrice qui me dit que la dame du guichet est en arrêt de maladie, alors que leur bureau de poste est en sous-effectif. Alors, moi je dis, mais je ne comprends pas pourquoi vous me dites ça. Il s'est rien passé. J'ai eu une explication avec elle. Je ne comprends pas. Alors, elle me dit, je ne peux rien faire pour vous. Hein. Et le lendemain, et sur le lendemain, ahuri, Pantrois, je peux vous dire tout ça, Pantrois, je reçois du jour après une lettre. Toujours, je reçois une lettre type sans signature d'un courrier de la poste avec un numéro de téléphone afin de prendre rendez-vous pour m'expliquer ça. Ça, je vous l'ai dit. Alors, j'explique la situation. Le lendemain, ahuri, je reçois deux courriers recommandés sans signature et sans motif, m'informant que la banque postale a décidé de clôturer tous mes comptes. Dans un délai de 60 jours.
Incroyable.
Dans un délai de 60 jours, soit le 26 février 2024. J'ai donc rappelé la directrice pour lui faire part de mon désarroi, n'ayant ni frappé, ni menacé, ni insulté.
C'est fou, ça.
Mais c'est fou. J'ai du mal à m'en remettre jusqu'à maintenant. Je n'aurais pu vous appeler avant.
Je veux bien vous croire.
Alors, non, mais là, c'est franchement. Elle m'a répondu que c'est son employé qui décidait, qu'elle était toujours en arrêt de maladie,
oui,
et qu'elle ne pouvait rien faire pour moi. Alors que ce n'est pas mon bureau de poste. Mon bureau de poste se trouve dans les Hauts-de-Seine. Et j'y suis depuis 1965, Olivier.
1965.
Oui, je suis arrivé de la métropole de mes Antilles françaises. Donc. Et j'ai toujours habité les Hauts-de-Seine, d'accord ?
Oui.
Et je vais vous dire, je suis client de cette banque postale et depuis plus de demi-siècle, bien avant qu'elle ne soit privatisée. Dans ce bureau de poste qui fonctionne admirablement bien, car il y a rarement des files d'attente, grâce à la bonne organisation du service, où il y a toujours un ou deux employés qui passent dans la file d'attente pour connaître les besoins du client, je n'ai jamais eu aucun problème. Tous les employés me connaissent. Ils étaient très étonnés. Mon conseiller bancaire a téléphoné à la directrice du bureau de poste de Paris-Saint-Lazare, qui n'a rien voulu entendre. Elle a même voulu lui raccrocher au nez. D'ailleurs, j'ai écrit au médiateur, il m'a conseillé d'écrire au médiateur de la poste, ce que j'ai fait, sans succès. Oui. Et si vous jetez un regard rapide sur les avis déplorables qui se trouvent sur le site de cette boîte postale, vous comprenez bien qu'il y a un réel problème. Parce que cette directrice défend bec et ongle ses salariés, quoi qu'ils fassent, oui. quoi qu'ils disent.
Vous avez été radié, Magali, ou pas encore ?
Ah oui, j'ai été radié, et tous les produits que j'ai achetés ont été vendus.
Quel
on m'a
été
remboursé. On m'a demandé un RIB pour tout verser sur le RIB, mon livret de caisse d'épargne, en fait tout ce que j'avais, tous les produits
jeté,
que j'ai achetés.
Jeté dehors, quoi.
J'ai été jeté, oui, le mot n'est pas trop fort, j'ai été jeté.
C'est tout de même assez incroyable de voir que certains salariés peuvent se comporter comme ça. Et finalement,
ils sont défendus bec et ongles.
Oui, oui. Vous en êtes victime aujourd'hui, Magali. Parce qu'on vous a reproché quoi, en fait ? De ne pas être contente ?
Oui, parce que le fait d'avoir déjà ne pas accepté la carte d'invalidité d'une personne qui est lourdement handicapée, je dis bien très lourdement handicapée, il n'y a pas de chaise pour s'asseoir, en plus, normalement, c'est une discrimination. Hein, la carte d'invalidité, on ne la donne pas à n'importe qui. Vous comprenez ? Il y a la photo de la personne dessus, il y a tout. Vous comprenez ? C'est une forme de discrimination. Vous comprenez ? Alors, en plus de ça, c'est moi qui paye le... Je suis aidante de la personne, mais c'est moi qui porte le chapeau. On me demande ma carte bancaire. Et on me demande aussi de ne plus utiliser de rendre ma carte bancaire et mon chéquier. Hein ? Donc, j'ai été pénalisé. Moi, jusqu'aujourd'hui, je suis en train de me demander qu'ai-je fait de monstrueux pour en arriver là. Il y a, me semble-t-il, une grosse méchanceté des dirigeants de ce bureau de poste. Et j'ai donc écrit, comme on me l'a conseillé, au médiateur et au directeur, et tout ça, sans succès. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Mm-hmm. Donc, voilà.
Alors, vous voyez...
Ils ne sont pas revenus sur leur décision.
Oui, mais bon. Vous voyez, Magali, j'ai un ami, Franck Tapiro, d'ailleurs, je l'embrasse au passage, qui m'adresse un SMS très gentiment et qui me dit que la Poste n'est pas privatisée, hein, Magali, c'est bien ce que je vous disais.
Ah bon ?
Ben oui.
Elle n'est pas privatisée ?
Ben non, la Poste n'est pas privatisée.
Ça fait partie de l'État.
Moi, je n'ai jamais vu la Poste privatisée. Hein, mais bon,
c'est plus une administration, me semble-t-il, je ne sais pas. Voilà. Mm-hmm.
En tout cas, on embrasse Franck et je pense vraiment que, je vous dis, la Poste. Alors, est-ce que le statut des salariés de la Poste diffère d'un
comprendre qu'elle était privatisée, qu'elle n'était plus une administration
fonctionnaire.
Dépendant de l'État, hein, mm-hmm. toujours dépendant de.
Mais je pense que si, au même titre que la SNCF est une entreprise.
Depuis le général de Gaulle, je dirais, parce que moi j'ai connu. La Poste sous le général de Gaulle.
Vous avez entendu dire qu'elle était privatisée à un moment ou un autre, non ?
J'ai cru entendre ça.
Du coup, malheureusement, on a sans doute des gens qui... alors je ne sais pas s'il y a un statut spécial quand on évolue dans des entreprises comme d'État, hein, comme ça, en tout cas, où une partie de l'État est bien présente... de la SNCF aussi, est-ce qu'on se permet de faire des choses et d'être dans une sorte de dilettante comme ça vis-à-vis de la clientèle ? Là, vous êtes tombé quand même sur une...
Sur des gens méchants.
Oui, sur une directrice.
Quand je vais dans les avis, je vois qu'il y a une dame asiatique qui dit qu'elle a même mis sa photo en disant qu'elle a été traitée de mongole par les employés. Ah. On les compte.
Mais vous savez, on est tout de même dans une société où on ne peut plus rien dire. Aussi.
On n'a plus le droit de dire, il faut rester bête et discipliné.
Oui,
passer
50 ans, il y en a pas mal qui estiment que vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de la fermer. Vous voyez ?
Voilà.
Vous avez eu raison de ne pas vous laisser faire, en tout cas, Magali. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez porter plainte ou vous allez
porter plainte contre qui ? Contre quoi ?
Oui. Vous avez laissé ça là ?
Non, je suis pénalisé, je suis sorti de la Poste, et alors, je vais vous dire, à ma grande surprise, il y a deux jours, je vais vous le dire, cette lettre, elle date du 22 avril, de la Banque Postale. Madame, écoutez bien, vous avez été récemment en contact avec la Banque Postale pour effectuer une réclamation. Oui, parce que moi, j'ai fait des réclamations à la suite de ça. Dans le but de mieux connaître, quand je suis jeté, hein, je suis déjà jeté, j'ai plus rien à voir avec eux, hein, alors est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie de m'envoyer un courrier maintenant pour me dire, dans le but de mieux connaître, alors c'est une enquête d'opinion, oui, hein, opinion, oui,
oui,
dans le but de mieux connaître ses clients et d'améliorer les services proposés, la Banque Postale réalise une enquête de satisfaction sur votre expérience autour de cette réclamation.
Donc, ouais,
nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre 5 minutes pour répondre à ce questionnaire. Il s'agit du recueil de votre opinion. Pour participer, il vous suffit de cliquer sur le lien apparaissant ci-dessous avant le vendredi 26 avril 2024.
Mmh. Et c'est une enquête automatique, ça, que vous avez reçue.
Voilà,
c'est
mais pourquoi je l'ai reçue, je ne sais pas.
Ouais.
Je ne sais pas, je trouve ça très hypocrite.
Mmh.
Je ne vais pas revenir à la poste. Hein, d'ailleurs, la poste, pour moi, c'est le bas de gamme. Maintenant.
C'est fini.
Vous voyez,
c'est fini, j'entends
c'est,
ça.
C'est le bas de gamme. Hein, je suis resté peut-être trop longtemps là-dedans. Hein, on a donné un coup de pied dans la fourmilière et j'en ai pris conscience que c'était du bas de gamme, finalement.
Bon. Bah, écoutez, vous voilà, en tout cas, sorti de tout ça. Et puis,
Non, je suis sorti avec beaucoup de mal parce que j'ai
oui,
à travers la gorge.
Oui.
Parce que je vais vous dire, et la personne en situation de handicap, elle est très. Comment vous dire c'est un petit peu. Elle a été très secouée par ça, par l'attitude.
Je me doute, oui.
Mm-hmm. Ça lui a fait un traumatisme, vous voyez.
Je veux bien
ça lui a fait un traumatisme, moi aussi. Et je ne peux plus rentrer dans un bureau de poste. Je ne sais pas, je passe devant. Même pour poster un courrier, je ne vais pas rentrer. Je n'ai pas envie d'entrer, je ne sais pas. Je suis dégoûté, vous voyez. Je suis dégoûté, j'ai un gros dégoût là. Et elle, quand elle a... Parce que moi, je suis son aidante. Elle me demande d'aller poster sur le courrier. S'il y a un colis, elle ne peut pas rentrer non plus. Vous voyez, ça l'a complètement perturbé. Hein. Donc, franchement.
Ouais. Ben, en tout cas, merci.
D'avoir été jeté comme des balles.
C'est scandaleux. Comme ça, vous avez raison.
C'est scandaleux.
Ouais. Ouais. Merci pour votre témoignage.
Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu la même chose que moi. C'est ce que je voulais savoir.
Bah, écoutez, si on nous appelle, on vous le transmettra, en tout cas, Magali. Vous pouvez compter sur nous.
J'aimerais bien savoir si je suis la seule dans toute la France, ou alors si c'est le seul bureau de poste aussi pourri.
Ouais.
Qui se trouve rue de la Pépinière à Montparnasse.
Hein. Ouais, bah écoutez,
Et avec sa directrice qui défend bec et ongles, ses salariés, c'est du jamais vu.
Mm-hmm.
Hein. Le client n'est plus roi, nulle part. Vous voyez,
ouais.
Ce sont les salariés qui font ce qu'ils veulent.
Mm-hmm. Bah écoutez, on vous dira s'il y a des suites à à votre témoignage. Merci en tout cas pour votre témoignage, ma chère Magali. Puis,
je vous en prie, Olivier,
bonne nuit à vous.
Beaucoup vos émissions. Merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup.
Allez,
bonsoir, on vous embrasse, Magali. Au revoir.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonsoir, Joss.
Bonsoir et merci de prendre mon appel.
Je vous en prie, Joss. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
J'appelle de Paris et je suis née en 47.
De quoi voulez-vous me parler, Joss?
Écoutez, je voulais vous parler de choses dont vous parlez assez souvent. Et je voulais surtout dire aux auditeurs qui s'occupent correctement de leurs affaires, dans le sens où je lisais un article de la banque, un illustré de la banque, qui disait que les loyers, enfin les dépenses étaient entre 40 et 60% sur le logement. Puis après, il y avait toute une répartition pour faire les détails et les pourcentages des autres dépenses en moyenne par foyer. Et moi, je suis outrée de l'abandon des copropriétaires et des locataires face aux syndics de copropriété. Nous avons pratiquement tous fait des prêts aux banques pour payer pendant 10, 15, 20 ans nos mensualités pour acheter nos biens.
Mmh.
Et très souvent pour les louer, pour avoir des petits revenus.
Ouais.
Nous savons que les locataires payent en moyenne 80-82% des charges.
Ouais.
On subit des dégâts des eaux, on subit des fuites dans les appartements, sur les parties communes, on le dit, personne s'occupe de rien. Ils s'en moquent. Mais les reproches qu'on a des locataires, oui, mais c'est à vous à voir avec le syndic. Mais avec les syndics, on n'y arrive pas. nous n'y arrivons pas.
Pourquoi vous n'y arrivez pas, Joss?
Je suis pas toute seule. Par exemple, il faut passer un ordre du jour pour avoir une réunion une fois par an. Pour la réunion du conseil syndical. Vous savez, on a une réunion une fois par an. On passe des ordres du jour en lettres commandées minimum 3 mois à l'avance pour dire voilà, j'ai des dégâts des eaux, ou mon locataire ou le locataire subit des dégâts des eaux. On n'en parle pas. On l'inscrit, mais on n'en parle pas.
D'accord. Mais on paye.
Donc on...
Vous payez.
Pardon ?
Par contre, vous payez.
Ah ben, je suis bien obligée.
Ouais.
Et je passe ma vie. J'ai à peu près dépensé pas loin de 9 millions d'euros. Parce que je travaille depuis 1962, quand même.
D'accord. 9 millions d'euros, c'est énorme.
À peu près, d'avocat. Bon, mais non, mais c'est énorme. Et je suis toujours condamnée face au syndic. Bien sûr que c'est énorme, mais je ne suis pas seule. Et maintenant, j'ai même des pressions sur les avocats.
Mmh, mais,
donc,
en fait,
même les conciliateurs, parce qu'il faut passer aux conciliateurs, les conciliateurs, ah ben on n'y a plus droit. J'ai plus droit. Mais ça devient les syndics, mais c'est insupportable.
Mais c'est une mafia, les syndics, Joss.
Mais on le sait.
Ben oui.
Et puis vous. Mais oui, mais non, il faut arrêter ça.
Et oui, mais comment arrêter ça? Comment?
Eh bien, c'est pour ça que je vous appelais, pour vous dire que les propriétaires, que les copropriétaires reprennent leurs biens en main. Il y avait un philosophe, Alain, qui disait que tout ce qui est incontrôlable devient des magouilles. Donc, on a tout compris, là, quand
ouais,
qu'il ouais. dit ça. Hein.
Mm-hmm.
Hein
ouais.
Et qui contrôle les syndics?
Je personne. Ne sais pas. Personne. Non.
Ben, il n'y a personne.
Et non, mais ils font ce qu'ils veulent.
Mais ça ne va pas.
Ah ben non,
là,
ça ne va pas.
Mais ça ne va pas du tout. Mais
au nom,
que font
finalement, au nom de quoi un immeuble, prenons l'exemple d'un immeuble où on a
oui.
14 propriétaires de cet immeuble, au, nom,
oui.
au nom de quoi ces 14 propriétaires sont obligés de s'adresser à un syndic au lieu de eux-mêmes créer leur propre... leur propre organisation et de régler les choses entre eux. Au nom de quoi, en fait ?
Ça commence à se faire dans les petites copropriétés.
D'accord.
Parce qu'à peu près dans les petites copropriétés où il y a 10 logements, hein, 10 lots, ils commencent à le faire. Mais comment vous commencez à être au-delà de 15-20? Eh bien, ils ne veulent pas. Personne
c'est interdit.
S'en occupe.
Mais c'est interdit,
non, c'est
interdit. Ou tout le monde, ça ne fait pas l'unanimité, vous voulez dire?
Voilà. Non, non, ce n'est pas interdit. C'est que personne ne veut prendre la responsabilité.
Mm-hmm.
Moi, je suis dans une copropriété, par exemple, où il y a 32 lots.
Oui.
30... Donc, j'ai essayé
d'accord.
de l'en. Hein. En plus, il y a le responsable de la copropriété. Qui travaille chez Deloitte.
C'est quoi Deloitte?
Quand même, c'est une des plus grandes entreprises, ou je ne sais pas. Ce sont des associés même.
D'accord.
Où il y a des avocats, des juristes et des grands comptables et des experts comptables.
D'accord.
Donc c'était facile de voir avec lui, parce que ça vous prend quoi? La première mois, ça vous prend une semaine un peu le temps de tout remettre en place.
Oui.
Mais après, ça devient comme une espèce de routine. Vous
ne
mettez même pas 10 minutes par mois.
Non, on va. Et même si ça coûte 30 minutes par mois, qu'est-ce que ça peut faire?
Mais bien sûr, bon, on va dire 30 minutes par mois.
Voilà.
Hein
mm-hmm.
Eh bien, très souvent... Les principaux du conseil syndical, je ne dis pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont très dévoués et qui sont très efficaces. Hein. Et bien là, c'était le président de la copropriété, un exemple. Ça, c'est un exemple, mais j'en ai plein d'autres. Il avait pris 11 mètres de couloir sur les parties communes.
Pourquoi faire ?
Pour se l'attribuer à titre personnel.
Mais qu'est-ce qu'on fait de 11 mètres de couloir, en fait?
Parce qu'il avait acheté 3 appartements du fond dans le coin
d'accord.
de l'immeuble.
Oui.
Donc il avait pris les 11 mètres de couloir.
Mm-hmm.
Donc, donc, il ne payait pas de charges. Il ne payait rien. Une chance, on a eu une dame qui était d'origine portugaise qui a fait une lettre avec une autre dame âgée en disant au syndic, c'est passé en réunion de copropriété. Ça, on n'en a pas parlé. On a simplement lu la ligne et ça a duré 10 ans comme ça. Donc, on vient d'y arriver.
Ah, vous venez d'y arriver, et, d'accord.
Mais ça a duré 10 ans. Mais les charges qu'il devait depuis 10 ans sur ces parties, il l'a quand même racheté. On l'a obligé à acheter. Et puis, c'est lui qui avait le prix. Hein. Et comme on a fini par céder, il a fini par céder, eh bien, on a réussi à le faire. Moi, j'ai dans des autres immeubles, j'ai par exemple un studio à côté d'où je suis, là.
Oui.
Il ne fait pas la surface, il ne fait pas 9 mètres carrés. Vous allez au CADAS, là, à Montreuil, comment ça s'appelle ? C'est pas le CADAS, c'est le métrage, là. Vous savez où on établit vos taxes ? Oui. Enfin, c'est à la porte de Montreuil,
oui.
Il n'a pas d'écoulement, il n'a pas la surface et il se permet quand même de louer à des jeunes étudiants au 7e étage sans ascenseur et évidemment, ça touche la CAF, c'est-à-dire qu'il touche les allocations étudiants pour le logement. Personne ne dit rien.
Personne ne dit rien, ben non, tranquille.
Non, mais et toute la semaine, vous avez entendu vos radios qui ont parlé de la fraude aux aides. Toute la semaine.
Oui, oui, oui.
Non, non.
J'en ai pas entendu vraiment parler, moi, mais...
Mais moi, je peux vous dire qu'on en a parlé, ou je l'ai lu dans la presse, en tour des cartes, on en a beaucoup parlé cette semaine, hein. Parce que la France est en déficit, enfin. Bon, moi, je trouve incroyable que, et c'est la raison pour laquelle je vous appelais, c'est que les gens ne se réveillent pas face au syndic. On croirait qu'une copropriété est comme sous curatelle. C'est le syndic qui commande, c'est le syndic qui décide, c'est le syndic qui vous dit comment voter, moi je vous recommande.
Oui, oui, qui choisit les entrepreneurs, qui choisit tout ça, et on ne sait pas pourquoi.
Et qui prennent des pourcentages,
oui.
Qui ne font pas de réception de travaux, parce qu'il n'y a pas de réception.
D'accord, ils font... Ah bon, je croyais qu'ils s'en occupaient quand même.
Les trois quarts du temps, vous en avez plein. Et puis, il est fait avec qui ? Avec un des membres du conseil syndical. Et lorsque ça arrive, hein, je dis bien pas tous les membres du conseil syndical et pas tous les présidents. Parce qu'il y a des présidents et présidentes qui sont très efficaces. Ils ont de la chance, ceux-là, hein, franchement, qui les gardent. Et moi, je recommande à tous les propriétaires, les copropriétaires, les locataires dans les immeubles, de ne pas se disputer, de parler entre eux. Parce que diviser pour renier, c'est le grand boulot du syndic.
Alors, on nous écrit au 739-21, c'est tout à fait légal de ne pas faire appel à un syndic et de faire un syndic bénévole, c'est-à-dire d'un copropriétaire de l'immeuble peut faire office de syndic, bah, comme vous nous l'avez dit, et s'il le souhaite, et si tout le monde est d'accord, sauf que les gens n'ont pas l'envie de le faire ou la volonté de le faire.
Voilà, passer 10 à 12 lots, ils ne veulent pas le faire. Et c'est ça qui est dramatique.
Oui, oui.
Hein? Et les syndics, leur grande, c'est ce que j'avais commencé à vous dire, leur grande chose qu'ils adorent, c'est diviser pour régner. Donc, comme ça, vous arrivez en copropriété, et vous mettez 10 ans à récupérer 10 mètres de partie commune qu'un président de copropriété s'est attribué, comme ça, à titre personnel, pour agrandir son logement, pour faire des réceptions. Bon, très bien, moi, je suis contente pour lui. Hein. Moi, ça ne me dérange pas, je suis pas jalouse. Alors,
jalouse. C'est malhonnête, quand même. C'est tout à fait malhonnête.
C'est du truandage.
Bah oui, en règle.
Et puis en règle, mais bien sûr. Et comme ceux qui louent aux jeunes, hein, là, ça s'est passé il n'y a pas 10 jours, ils louent au septième étage, ce qui est représenté comme un débarras. Hein, c'est pas le cadastre, comment ça s'appelle, à la porte Montreuil, là, il y a peut-être quelqu'un qui veut, le nom m'échappe, mais où on établit les taxes de les taxes foncières et les taxes d'habitation. Eh bien, il a pas l'écoulement, il a pas les 9 mètres carrés, et il vient de trouver un étudiant.
D'accord.
Et sa mère était avec lui. Et sa mère, elle visitait même les toilettes. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Mais on croit rêver. Donc, moi, je me demande quand les gens vont se réveiller, qu'est-ce qu'ils attendent. Donc, vraiment, tout ça, je voulais vous le rappeler parce que c'est quand même assez insupportable. Qu'est-ce qu'ils veulent pour leurs enfants? Quel exemple ils leur donnent? Hein, et puis, j'écoutais tout à l'heure la dame qui recevait des coups, là, tout à l'heure, chez vous. Alors, tout ça passe aussi par une misogynie insupportable. Mais j'aimerais rappeler à tous ces gens qui sont misogynes que les femmes, c'est un passage obligé. Ils ont tous eu une mère, même le plus grand misogyne de la Terre, il a eu une mère. Donc voilà, c'est quand même assez important de leur rappeler.
Oui. Non mais merci Joss de nous avoir rappelé cela ce soir, c'est sûr que... Mais bon, vous savez, tant que personne ne se révoltera contre ça, ça continuera tranquillement.
Et bien c'est pour ça que je vous appelle qu'ils se réveillent et qu'ils arrêtent de se disputer, qu'ils se disputent, même un peu fort dans les immeubles, mais qu'ils s'expliquent entre eux, et qu'ils arrêtent d'aller pleurnicher au syndic, comme si c'était des gamins de 10-12 ans, vous voyez. Ah, le syndic, l'autre jour, j'ai vu un article, vous savez que les agences immobilières, dont un qui fait un des plus grands syndics, ou l'homme qui, ça se termine par A, cette grande société, qui a la Légion d'honneur, la décoration, le grand patron, tout truc, machin, c'est lui qui laisse les surfaces petites louées. J'ai reçu une barre sur la tête du balcon en fonte, qui est tombé d'un deuxième étage. Je l'ai reçu sur la tête. J'ai eu 12 points de suture dans le crâne de l'immeuble. Et toujours cette même société, hein, les pompiers, tout le bazar, parce que quand même, j'étais assommée. Hein. Je me suis retrouvée à l'hôpital de Clichy, là, le grand hôpital parisien, vraiment. Bon, bref. Eh bien, la copropriété, le syndic, il ne veut rien savoir.
D'accord.
Ah non, c'est mon assurance et tout. Alors tout ça, entre assureurs, ça ne bouge pas, bien sûr. Hein, tant qu'on ne dit rien. Et puis après, on laisse passer le délai des 2 ans. Comme ça, le délai des 2 ans, si vous ne bombardez pas de lettres recommandées, vous n'y arrivez pas, ça, comme le couloir. Ça dure 10 ans, quoi. Mais ça devient insupportable. Les gens, réveillez-vous. C'est votre argent. Arrêtez d'aller faire 3 heures supplémentaires chez Pierre, Paul, Jacques ou chez votre patron. Pendant ce temps-là, vous vous faites voler le double ou arnaquer le double par vos syndics. Contrôlez vos comptes et soyez un peu plus cool que ça. Et surveillez vos biens. Vous êtes pas mis sous tutelle ni sous curatelle. C'est affolant. Alors, je vous disais que ce grand patron de société, il avait fait un article dans un magazine qui passe, et ça s'appelle Agence 1, avec toutes ses décorations, etc. Et il avait même la prétention et vraiment la suffisance de faire dans son article « Je veux être le premier syndic du monde ». C'est pas beau?
Ouais, c'est magnifique. Magnifique.
Ouais, c'est pas beau. Il est même pas capable de respecter le minimum, ou de faire respecter par ses agents, le minimum des réglementations françaises. Mmh. Et puis, ils oublient souvent que les copropriétaires, ce sont leurs clients. C'est pas l'inverse.
Oui, ouais.
Parce que... Mmh. Ben oui, les copropriétaires, c'est ceux qui payent, en général.
Bien sûr, hein. c'est qu'eux, il n'y a qu'eux qui payent, le syndic ne paye pas.
Exactement.
Il prend l'argent.
Et puis d'arrêter de nous faire faire des conflits avec les locataires. Parce qu'on dit, mais non, on n'a rien à voir avec le locataire, il faut vous retourner contre votre propriétaire. Donc le propriétaire, on est là, béant, on ne fait rien, on envoie 15 lettres recommandées. En plus, c'est les seuls, même l'administration, et Dieu sait que maintenant, notre administration, maintenant, hélas, elle ne va pas si bien que ça. C'est bien dommage, parce que c'était quand même des belles choses, nos administrations.
Oui,
eh bien, c'est les seuls, les syndics, qui se permettent de ne jamais, 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 sauf si vous êtes monsieur ou madame de Schtroumpf, hein, ça peut. Mais les autres copropriétaires, jamais ils ne répondent aux lettres commandées. La loi, les réglementations, leur donnent 2 mois. Les administrations, maintenant, elles nous répondent dans les 2 mois. Même des fois, ça fait un peu plus de 2 mois, mais enfin, elles répondent. Mais jamais un syndic ne vous répond à une lettre commandée ou ne fait des déclarations à l'assurance de l'immeuble quand ça passe par les parties communes. Moi, j'avais investi, parce que je vous dis, je travaille depuis 1962, hein, j'avais 14 ans, quand j'ai perdu mon père à peine, hein. Eh bien, l'administration fiscale m'a taxé en résidence secondaire sur des trucs que je ne pouvais pas louer. Ce sont des chantiers. L'eau me venait du plafond du voisin, qui est un assureur qui ne bouge pas, évidemment. Hein.
Mm-hmm.
Mais et j'ai trois adresses comme ça, sur 3 lots. Parce que c'est quand même très rare que l'administration fiscale se déplace avec 2 agents un élève, là, ils étaient à 3. Pour bien venir voir que ce n'était pas des résidences secondaires. Ça voulait dire que dans la même ville, vous aviez 3 studios à résidence secondaire. Mais c'est débile.
Oui, c'est débile.
Vous voyez ?
Complètement, oui. Mmh.
Hein ? Parce que non, mais c'est du n'importe quoi.
Malheureusement, alors ça, c'est un schéma qui malheureusement dure et va durer encore un bon moment, je peux vous dire.
Moi, je peux vous dire que si ça continue comme ça, hein, je vais vous dire ce que vous ont dit très souvent les auditeurs, les gilets jaunes, ça ne va pas tarder à recommencer. Et je crois que ça va recommencer encore plus fort. Parce que quand vous avez plus de 50% de votre budget qui passe dans votre logement, trop, c'est trop. Hein ? Là, on est dans un immeuble où ils sont venus mettre les nouveaux caps pour les nouveaux compteurs.
Oui.
Eh bien, ils n'ont pas fini. Il y a des gens qui n'ont pas voulu parce que d'abord. Eh bien, il y a des gros, gros câbles. Il y a 3 gros boudins de câbles, hein, sur à peu près 8-10 mètres de couloir, où les gens, je suis toujours en train de dire à la voisine, faites attention à vos cheveux, parce que vous allez vous prendre une décharge, vous allez vous faire électrocuter. Mais c'est à venir voir, tellement c'est scandaleux. Mais le syndic, qu'est-ce qu'il fait? En plus, il est en face sur la même rue. Hein?
Et il fait rien.
Ah ben, il bouge pas.
Ben non, il bouge pas.
Ah ben non, non. Ah, mais madame, vous me l'avez déjà dit.
Ça se saurait, hein. Ça se saurait, hein. Et puis, vous le savez, si vous écoutez cette libre antenne, des syndics qui ne bougent pas, qui ne font rien, et dont on est mécontent, il y en a un paquet. Donc, s'arrêter. Merci en tout cas.
Justice, pourquoi elle n'écoute que ces gens-là? Voilà. En tous les cas, merci à
vous. Je vous en prie.
Et puis, vraiment que les gens se réveillent sur leur bien, et parce que leur bien, c'est leur travail. Hein. En général, c'est leurs économies. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. En tout cas, on vous embrasse et on vous souhaite bon courage, ma chère Joss.
Merci, et puis bon courage à vous aussi, et merci à vous surtout.
Oui, je vous embrasse. Au revoir.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Vous voulez découvrir d'autres témoignages de la Libre Antenne? Rendez-vous sur le site et l'application Europe 1. Et puis si vous souhaitez témoigner, échanger avec Olivier Delacroix ou Valérie Darmon, on vous donne rendez-vous ce soir à partir de 22h. Ce soir, ce sera avec Valérie. Vous pourrez la joindre au 01 80 20 39 21 et vous pouvez même laisser un petit message dès maintenant. On vous rappellera. Avant de retrouver Sophie et les copains, le grand jeu de culture générale d'Europe 1, musique avec la chanteuse Santa, voici Recommence-moi sur Europe 1.
Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de temps. Et s'il ne reste plus rien du tout et que tout
La cataracte est la principale cause de cécité évitable au monde. Le métavers peut aider à traiter ce problème. La plateforme de réalité virtuelle, conçue par Fundamental VR et Orbis International, contribue à former des médecins au traitement de la cataracte, pour que davantage de chirurgiens puissent opérer en toute confiance dans le monde entier. Avec la formation en réalité virtuelle, les chirurgiens peuvent s'entraîner encore et encore pour acquérir des compétences. Meta et le métavers ont déjà un impact.
Son larme sans prière. Et s'il ne reste plus rien, oh, du tout. Et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous. Je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, 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 ce sera la nôtre. Et si le temps change, un claquement de doigts. Et que tout tourne, tourne, tourne autour de toi.
Elle avait créé la surprise le 14 juillet à Bruxelles en jouant du piano suspendu à une grue à 40 mètres de hauteur, la chanteuse Santa. Et on vient d'écouter son nouveau titre « Recommence-moi ». Voilà, la nuit sur Europe 1, tout recommence d'ailleurs, puisqu'on redécouvre des émissions à côté desquelles vous êtes peut-être passé. C'est l'heure de jouer avec Sophie Davant. Bonne fin de nuit à tous.
Europe 1, Sophie, les copains.
Sophie Davant.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi Europe 1. Nous sommes ravis de passer une partie de l'après-midi en votre compagnie. Deux heures de jeux, des jeux sérieux, des jeux un peu moins sérieux. En tout cas, à chaque fois, de la bonne humeur, du sourire et 500 euros à gagner aujourd'hui dans le jackpot. Il nous fait rire comme personne, mais dans le milieu de l'humour, c'est quelqu'un. Bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonjour.
Sophie. Allez. Bonjour, chère Sophie.
C'est une belle âme et le reste n'est pas mal non plus, surtout aujourd'hui. Hein. Elle est chic aujourd'hui. Bonjour, Anora Malagré.
Bonjour, Sophie. Bonjour, les copains. Wow. J'ai énormément changé. Je suis une working girl.
Vous n'auriez pas fait un petit peu de télé aujourd'hui?
J'étais un petit peu ravalée, effectivement. Je conseille d'aller voir sur le site europe1.fr, ça vaut le détour.
Voilà. Sa religion, c'est le son. Et pour 2 heures, nous sommes tous ses apôtres. Oh, bonjour, Joe Hume.
Bonjour, Sophie. Salut, les copains.
Ils sont là donc pour vous accompagner et jouer avec vous. Et puis à 17h, on accueillera le comédien humoriste Tom Villa qui viendra nous parler de Mademoiselle Holmes, la série qui enchante le PAF depuis quelques semaines. Quelques infos du jour, chers amis, en ce 25 avril.
Oui, est-ce que vous connaissez?
Ça va sinon?
Avant, il y avait un slogan publicitaire que tout le monde connaissait, c'était boire ou conduire.
Il faut choisir.
Il faut choisir. Ouais. Et il y avait une blague qui était, moi j'ai pas le choix, je sais pas conduire. Donc, il y a des gens qui ont pas le choix. Et c'est l'histoire d'un brugeois, c'est un syndrome très très bizarre. Il a été contrôlé par la police, avec un taux d'alcoolémie beaucoup plus haut que la moyenne. Et c'est la deuxième fois, en récidive, donc il passe au tribunal. Et ben, il a prouvé, avec des médecins, preuve à l'appui, que c'était en fait son corps qui sécrétait de l'alcool naturellement.
C'est vrai, bien sûr.
Mais je vous assure, et ça a un nom tout ça. C'est un syndrome, c'est de l'auto-fermentation ou de l'auto-brasserie. C'est quand.
Ça s'appelle vraiment comme ça?
Oui, c'est ça. C'est l'ingestion d'aliments riches en glucides, du pain, pommes de terre, haricots, et ben le mec, il produit de l'alcool à l'intérieur de son sang.
D'accord. Je veux épouser cette personne.
Non, mais je suis pas sûr que si tu lèches sa sueur, tu peux faire un apéro.
On peut pas y vivre.
Non, quand même pas. Quand même pas. Mais toujours est-il que. Ils sont une vingtaine comme ça dans le monde, et
ça,
il a été relaxé. Oui, c'est ce que je vous ai dit en fait.
L'auto-brasserie.
Ou l'auto-fermentation.
C'est donc qu'il a été relâché.
Il a été relâché, et il a été prouvé que ça baissait pas, entre guillemets, ses aptitudes à conduite. Par contre, on lui a interdit de boire tout autre alcool que ça. Puisque son corps en produisait déjà
pas mal.
C'est
dingue.
Donc du coup, il ne peut pas en boire du tout.
Non, c'est ça.
Ah, c'est ça, c'est dommage.
Mais est-ce qu'il a pas une manière de s'alimenter particulière qui produirait ces effets-là? Peut-être qu'il mange trop de trucs qui fermentent. Quoi.
Il produit l'alcool seulement avec les aliments riches en glucides. D'accord. Donc, pain, pommes de terre, haricots. Tout ça.
Voilà. Bon. Ok. Waouh.
Étonnant.
Oui, quand même. C'est très, très bizarre, cette affection.
C'est
à moi. Bah, très bien. On va changer de sujet. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la nouvelle saison de Drag Race France.
Ah,
tout le monde sait ce que c'est Drag Race ici.
Bien sûr.
Bon, voilà. Donc, je résume pour les gens qui ne connaîtraient pas. C'est une institution de la télé américaine. En gros, c'est un concours de drag queen qui se déroule sur plusieurs semaines. Le concept, il a été adapté dans plusieurs pays, dont la France, depuis maintenant 2 saisons. Et la saison 3 va arriver bientôt. Il y a eu une conférence de presse hier au Paradis Latin. Et on a appris l'identité des candidates de cette 3e saison.
Jean-Luc Lemoyne.
Voilà, qui depuis des années nous dit qu'il a envie d'y participer. Et puis, surtout, une candidate qui vous dira peut-être quelque chose, Léona Winter.
Moi, je veux mourir sur scène devant
projecteur. Alors, je vous récapitule. Là, on est en 2019, effectivement. Ce sont les auditions à l'aveugle de The Voice. Et un candidat qui s'appelle Rémi se présente sous les traits du personnage drag queen Léona Winter.
Okay.
Il va finir dans l'équipe de Jennifer. Il va arriver en demi-finale. Ce qui est quand même pas mal d'arriver en demi-finale. Il sera éliminé, mais en fait, ça le fait connaître. C'est une drag queen. Il participe à l'édition chilienne de Drag Race qu'il gagne.
Ah ouais.
Et donc, il va partir. C'est un peu comme s'il avait gagné Objectif Top Chef avant de faire Top Chef. Parce qu'il va faire donc la 3e saison de Drag Race France. Je pense qu'il part avec une petite longueur d'avance.
Tu m'étonnes. Bon, et Nora, alors, une petite info du jour.
Ma chère Sophie, chère copain, je vous propose un pique-nique. Oui, tout à fait, un pique-nique.
Ça tombe bien, il fait très beau à Paris en ce moment.
Tout à fait. Le plus grand pique-nique de l'année qui aura lieu sur l'avenue des Champs-Élysées, dis donc. Recouverte.
Avec des mulots. Avec des surmulots partout. Un sandwich de surmulots.
Recouverte par une nappe à carreaux rouge et blanc, forcément. Bah oui. D'une longueur, tenez-vous bien, de 216 mètres. Donc vous pourrez, le 26 mai, venir pique-niquer sur l'avenue des Champs-Élysées. On sera à peu près 4000 parce que oui, moi j'en serai, messieurs.
Ah ouais.
Oui, franchement, j'ai trop envie de faire ça.
Vous avez vraiment envie de manger par terre à Paris?
Bah, vous êtes sérieux?
C'est sur une nappe.
Tu me casses. Mais à quelle occasion alors? C'est pour défendre une cause?
Non, pour la joie de vivre. Voilà. Pour la joie parisienne, pour préparer les JO, pour
c'est
dire regardez,
blanc,
nous sommes conviviaux, regardez, c'est propre, regardez chez nous, on sait recevoir. C'est ça la France.
Regardez, on peut plonger dans la Seine et ressortir sans le moindre bouton sur le
corps. Voilà. Et c'est à l'initiative de qui?
De ma mère. C'est ma mère qui organise ça. Elle est très généreuse, c'est la mairie de Paris.
Ah bon, la mairie de Paris.
Voilà. Salut Anne. Hidalgo.
Okay. Nathalie, bonjour Nathalie.
Oui, bonjour Sophie, bonjour, salut les copains.
Salut Nathalie.
Bonjour Nathalie. Nathalie qui a déjà trouvé 3 bonnes réponses, qui nous appelle de Chamonix et qui est une retraitée active, on va dire, hein, c'est ça?
Oui.
Avec des enfants, des grands garçons qui sont guides de montagne.
Oui.
Vous n'êtes pas trop inquiète quand ils partent?
Si. Oui. Ils ont commencé la montagne très jeune, vers 12-13 ans. Donc oui, je me suis toujours fait du souci.
Bah ouais, j'imagine, parce que parfois il y a des accidents qu'on ne voit pas venir.
Merci
malgré.
Merci Sophie, vous faites beaucoup de bien au moral de Nathalie. On peut compter sur vous, hein.
Non, mais je me mets à sa place surtout. C'est vrai que c'est
après, j'imagine que maintenant ce sont des experts, c'est leur métier. Ils connaissent
oui.
les.
Oui. Voilà. Ils sont prudents maintenant.
Voilà. Bon,
ils
Nathalie.
Ils sont prudents maintenant.
Ouais. Il reste encore une bonne réponse à trouver si vous voulez tenter notre jackpot de 500 euros. Ils vous ont écouté hier, les enfants et les petits-enfants?
Non, j'ai préféré qu'ils ne m'écoutent pas.
Bon. Parce que ça vous stresse?
Oui, ça me stresse.
Oh, trop mignonne. Ils s'appellent comment? Vous voulez leur faire coucou?
Oui, bah je dis coucou à Nicolas, l'aîné, et coucou à Benjamin, le deuxième.
Donc ça, ce sont vos fils et vos petits-enfants?
Oui, alors j'ai Tommy, Paco et Lisa.
Ouais. Oh, c'est mignon.
On les embrasse aussi, alors, ouais. Très fort.
Ils n'écoutent pas, mais on leur fait des gros
Monsieur,
bisous.
Monsieur, ils écoutent, bien sûr.
Bah, non,
ils font du ski, là. Ils font du ski.
Bah, ouais. Ah, mais ils écoutent sur les pistes. Il est tombé de la neige, là, récemment?
Oui, il est tombé beaucoup de neige, il a fait froid et la neige est excellente.
Oh là, bon, la planète va bien,
c'est merveilleux. Et là, Sophie va vous dire, et ça vous fait pas peur la neige? Parce que ça glisse quand même.
Non, moi j'aimerais bien aller skier du côté de Chamonix, là, c'est la bonne période, avec de la bonne neige,
ah,
ça
oui,
doit
c'est
être
vraiment la bonne
excellent.
Période.
Ouais, elle en bave presque. Hein. Vous êtes skieuse, vous n'êtes pas, vous faites pas de...
Je le suis.
Bon, d'accord. Aujourd'hui, pas de sport.
Non, sport, comme Churchill.
Très bien. Voici la dernière question. C'est une question actu, une question anniversaire.
Il n'y a vraiment qu'une chanson d'anniversaire qu'on peut mettre à chaque fois qu'il y a une question anniversaire, c'est celle.
Non, il y a celle de Patrick Sébastien aussi. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire.
C'est pas celui de ta mère. Alors, c'est l'anniversaire de Paris Match qui souffle ses 75 ans. Aujourd'hui, que ce soit sur une plage ensoleillée ou dans une salle d'attente de médecin qui prend un peu trop son temps, ce magazine nous a accompagnés, informés, divertis depuis 1949.
Wow.
Pour ce bel anniversaire, la troupe du Splendide est réunie à la une du magazine. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez me dire en quelle année l'illustre troupe est apparue pour la première fois dans Paris Match? Pour la première fois.
Ah, dans Paris Match?
Ouais.
Oh là là,
est-ce que c'était en 1976 aux côtés de Coluche pour le spectacle Ginette Lacaze, en 1978 pour la sortie du film Les Bronzés, ou en 1981 pour Le Plaisir, comme ça, car elle connaissait bien la rédac?
Mm. Oui, c'est un peu compliqué. Moi, comme ça, je dirais 1978.
Les quand bronzés
après Les Bronzés.
Moi aussi, j'aurais dit ça de...
Ça semblerait assez
mais il y a peut-être un piège. Hein.
Moi, j'aurais dit le premier. Moi, j'aurais dit Ginette Lacaze.
Avec Coluche?
Ah,
oui, parce que c'était une pièce... Enfin, c'était une pièce chorale. Et Coluche les avait pris un petit peu comme ça sous son aile. Donc, j'imagine qu'ils étaient sur la photo. Est-ce que, par contre, ils étaient là en tant que troupe du Splendide? Par contre, je suis pas sûr.
T'es mais... tellement intelligent, j'ai envie de pleurer.
Non, je sais pas si c'est ça.
Mais il est juste vieux. Hein,
il est fort possible que... Excusez-moi, je vais aller taper Joël, mais je reviens. Je reviens tout de suite. J'en ai pour 2 secondes, ça va aller. Il est frêle.
Ça va très vite.
Il n'y a pas de souci. Et non, non, mais et donc il est fort possible qu'il y ait eu des photos de Coluche avec derrière lui la troupe du Splendide.
Moi, je dis tout comme Jean-Luc.
Moi alors, j'ai pas que dites-vous, Nathalie?
Bah, écoutez, moi, j'aime beaucoup Jean-Luc et je trouve qu'il est vraiment un dictionnaire vivant des actualités, des chanteurs et tout, donc je le suis.
Bon, ça va, les mollets, Jean-Luc? Vous le vivez bien?
Franchement.
Attendez-moi, j'arrive à Chamonix dans 2 heures.
Alors, vous savez, c'est une ordure hein, dans la vie. Hein. Je plaisante.
Donc, alors, en bloc 1976, hein, c'est ça, Nathalie?
D'accord.
Eh bien, c'est une bonne réponse. Oh, c'est vrai. C'était un peu trop évident pour la sortie du film Les Bronzés. Là, ils étaient aux côtés de Coluche pour le spectacle Ginette Lacaze. On peut y voir sur la photo autour de Coluche, Martin Lamotte, Christian Clavier, Josiane Balasco, Thierry Lhermitte, Myriam Mézières, Patrick Olivier et Gérard Lanvin. Tiens, bah justement, pour... alors ça fait, c'est la quatrième bonne réponse pour Nathalie.
Alors, je voulais dire merci à Jean-Luc. Hein, merci.
C'est un plaisir, Nathalie, et j'espère que vous allez tout rafler pour le jackpot.
Et moi, je vous ai trouvé deux bonnes réponses hier. Hein,
ne l'écoutez pas.
Il est jaloux. Non, bon, dans
c'est
quelques
une planche
instants,
pourrie,
vous allez tenter ce jackpot. Mais d'abord, on va fêter l'anniversaire de Paris Match avec l'ancien patron de la rédaction de Paris Match, Patrick Mahé, en personne. Bonjour Patrick.
Bonjour Sophie, bonjour les copains.
Bonjour Patrick, qui sort aujourd'hui chez Plon, la légende de Paris Match, pour retracer justement l'histoire du magazine. Qui trouve-t-on dans ce gros livre? C'est une sorte d'abécédaire, Patrick?
C'est un abécédaire, bien sûr, de 540 pages environ. Mais étant donné que c'est un abécédaire, ça se lit très facilement, parce qu'on peut grignoter, on peut passer d'une lettre à une autre, d'un auteur qu'on aime à une artiste qu'on adore, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Alain Delon, et le général de Gaulle, enfin, toutes les personnes, tous les personnages qui ont accompagné l'histoire des Français depuis 75.
Vous y avez passé combien d'années, vous, à Paris Match?
À peu près 25 ans.
Ah oui.
25 ans, ça maintient en forme.
Et oui,
ça maintient jeune.
Auprès de grandes figures comme Roger Théron.
Absolument, et Daniel Philippaki, bien sûr hein, puisqu'on évoquait le rock'n'roll, et évidemment, comme Daniel a créé Salut les copains, à la radio à Europe 1, et ben évidemment, c'était fantastique de pouvoir côtoyer un homme tel que lui.
Qu'est-ce qui vous reste de toutes ces années et de toutes ces aventures? J'imagine que vous racontez plein d'anecdotes croustillantes dans ce livre. Vous en gardez quoi?
Ben pour moi, je reprendrai la phrase d'un des photographes des premières années, qui s'appelait Jean-Pierre Biot, et qui disait « Nous sommes atteints d'une maladie incurable, qui s'appelle la matchfiche. » La matchfiche, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se défaire de Paris Match.
Ouais.
Il citait l'exemple de Walter Caron, qui était un photographe qui s'était marié avec une ancienne Miss Corse, laquelle, en une année de mariage, n'avait vu son mari en reportage, toujours en reportage, que 18 jours par an, pour l'année de son mariage.
Oh, le rêve.
Et la conclusion, c'était en tout cas pas pour les ménages, mais il disait, travailler à Paris Match, c'est pas un travail, c'est un rêve.
Ah, d'accord. Votre plus grande fierté, vous, en tant que patron, vous avez été à l'origine d'un scoop, d'une interview particulière?
Bah, dans mon rôle, évidemment, de rédacteur en chef pendant des années, j'étais associé à beaucoup d'exclusivités.
Oui.
La plus intéressante, à mon avis, dans la manière dont elle a été menée, ça a été la révélation au grand public de l'existence de Mazarine Pinzot, qui était la fille cachée du président Mitterrand, et dont le cercle parisien du 8e arrondissement s'amusait à parler dans les dîners en ville, mais le public ne la connaissait pas.
Ouais.
Et nous, on lui a permis quelque chose de formidable, c'est d'arrêter qu'elle puisse dire à des gens qui ne la croyaient pas « Je suis la fille du président de la République », et bien oui, on l'a montré. L'important, c'était de le prouver.
Mais ça s'était fait en accord avec le président, non?
Absolument. Le président a donné un accord tacite. Évidemment, il n'a pas publié la photo, non. Il a dit la presse, sachant et ayant vu les photographies qui lui avaient été présentées, la presse sait ce qu'elle a à faire. Mm-hmm. C'était un feu vert, évidemment.
J'ai vu aussi dans le dernier numéro de Match, avec à nouveau l'équipe du Splendid en couverture. Hein, donc, des années après, ils sont tous là en couverture.
Il faut aller voir le petit reportage aussi qui est sur X, parce qu'il y a le making-of de cette photo et c'est vraiment à regarder.
Pourquoi?
C'est incroyable.
Parce qu'il y a des retrouvailles, c'est super touchant, et puis ils font tellement partie de notre culture, de notre vie, de les voir se retrouver et de prendre du plaisir à ça.
Et de se chambrer entre eux et tout, c'est délicieux.
Ils se chambrent sans arrêt, ils rigolent, on les voit traverser la rue quand ils sont dans Faubourg Saint-Martin, mais en public, la rue n'est pas fermée, il n'y a pas de barricade, il n'y a pas de police qui... Non, le public est là. Et ils rigolent, ils traversent la rue avec leurs valises, comme à l'époque où ils, ils ont rejoué en tout cas la scène du grand déménagement théâtral. C'est ça qui est formidable.
On voit la grande émotion de Bruno Monod aussi, qui est très ému.
Et alors, dans ce dernier numéro, il y a aussi un petit mot de votre petite fiancée. Bon anniversaire Paris Match, que j'ai vu naître 75 ans d'un parcours sans faute.
Puisque Brigitte Bardot avait 16 ans quand elle a fait la couverture la première couverture de sa première couverture en 1951. Ouais. Et régulièrement, elle s'était auto-baptisée elle-même. Ouais. La petite fiancée de Paris Match. Mmh. Et là, elle a rédigé un mot qui est simple et que je vais vous lire. Bon anniversaire Paris Match que j'ai vu naître, évidemment. 75 ans d'un parcours sans faute. Tu restes souverain et unique, accompagné de ton magnifique emblème, le poids des mots, le choc des photos. Je suis fier d'être ta petite fiancée. Brigitte Bardot, La Madrague 2024.
Qui avait trouvé ce slogan formidable, le poids des mots, le choc des photos?
Il a été trouvé par plusieurs personnes, non pas une seule personne, qui regroupait à la fois Daniel Philippaki, Jean Durieux, qui a été un rédacteur en chef, Jean Co et Roger Théron. Pour le poids des mots, c'était facile. Ouais. Enfin, facile. En tout cas, ils étaient tous ensemble sur la bonne piste. Pour le choc des photos, c'est venu d'un choc visuel où un directeur artistique avait pris en boule des maquettes qui lui déplaisaient. Ils avaient jeté à la figure d'un maquettiste qui partait trop vite, qui s'enfuyait trop vite avant l'heure. Et quand Roger Théron a ouvert la porte de la maquette, il a dit simplement avec sa belle voix de bronze: oh là là, Guy Tria, il s'appelait Guy Tria, c'est le choc des photos. Et c'est ainsi qu'est née, en fait, cette devise complète, le poids des mots, le choc des photos.
Bon, Patrick, on pourrait en faire des heures sur les 75 ans de Paris Match. On lira avec plaisir.
À votre disposition.